Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Bac Philo qui est là pour vous rappeler ce temps de votre jeunesse où tout en regardant le tournoi de Roland-Garros à la télévision, vous révisiez vos cours de philo pour préparer l'épreuve du baccalauréat. Peut-être que pour vous ce sont des souvenirs, mais pour d'autres lycéens d'aujourd'hui c'est le présent, c'est l'avenir proche, très proche, puisque l'épreuve aura lieu lundi 16 juin. Pour aider nos jeunes philosophes à s'y préparer et aussi pour le plaisir de penser, d'attaquer les préjugés, de soulever des paradoxes, pour la joie que nous donne la découverte d'une idée, nous vous proposons une série de 3 émissions centrées sur l'exercice de la dissertation. Nous nous demanderons avec Anne Simon si l'État met fin à la loi du plus fort et nous tâcherons d'analyser avec Paul Millot si agir par devoir, c'est nécessairement bien agir. Mais aujourd'hui, c'est de l'art dont il va être question, le sujet posé, l'art nous détourne-t-il de la réalité? Et pour disserter, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Chevrier au micro de Bac FM. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Thomas Chevrier qui était professeur d'anglais et qui a succombé à la tentation philosophique en devenant professeur de philosophie, exerçant actuellement au lycée Raoul Follereau de Nevers. Avant de se lancer dans cette dissertation sur le sujet « L'art nous détourne-t-il de la réalité ?» Donc on prépare avec ces émissions une épreuve, donc on prépare à une épreuve, mais au préalable, il est peut-être bon d'essayer de dire ou de convaincre que philosopher, ça peut être un plaisir, que ça peut être une joie et que c'est pas simplement des nœuds à la tête et à l'estomac.
Effectivement. Mais alors est-ce que philosopher sous forme dissertative oblige à faire des nœuds ? Est-ce que pour penser dans la joie, on peut le faire en dehors, il faut le faire en dehors de la dissertation, ou est-ce qu'au contraire, on peut avoir du plaisir, y compris le jour du bac, en rédigeant sa dissertation?
Laissons l'hypothèse ouverte, estimons que ça reste possible. Alors, donc j'ai indiqué déjà le sujet, l'art nous détourne-t-il de la réalité? L'art, c'est une des 17 notions qui se trouvent au programme de philosophie. Commençons par un peu de méthode. Comment aborder un sujet de dissertation comme ça?
Il me semble qu'il faut, dans une certaine mesure, considérer le sujet d'une façon un peu naïve, dans un premier temps, et se demander ce qu'on en pense, tout simplement, dans une première approche, avant d'aller puiser dans son cours, dans les références qu'on aura idéalement travaillées. Peut-être que de faire ceci permet d'avoir une approche un peu affective du sujet, de se demander en quoi on est concerné et qu'est-ce qu'on en pense. Ça permet sans doute de traiter la chose d'une façon un peu moins abstraite ou lointaine.
Et de soulever des enjeux.
Après, soulever des enjeux, ça implique sans doute déjà de rentrer dans les notions et donc de faire appel quand même à un cours, à un travail. Les élèves ont parfois l'impression, comme ils disent, qu'on peut y aller au talent en philosophie.
Ils viendraient à l'idée de personne d'aller à l'épreuve de mathématiques.
Au talent.
Du baccalauréat, sans apprendre ses théorèmes et ses formules. Par contre, cette idée un peu qui court qu'en philosophie, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances.
Et c'est le problème de la langue commune. La philosophie ne nécessite pas de langue particulièrement approprié à la philosophie. On peut, dans une langue commune, dire beaucoup de choses qui relèvent de formes conceptuelles, alors que la langue mathématique, par exemple, est bien spécifique et doit être apprise comme on apprendrait une langue étrangère. C'est peut-être sans doute ce rapport à la langue qui fait que la philosophie est vécue comme quelque chose pourquoi on n'a pas besoin de travailler.
Donc on va partir et utiliser les mots de la tribu. L'art nous détourne-t-il de la réalité? Effectivement, il n'y a que des mots assez communs. L'art, détourné, réalité, c'est peut-être les mots les plus simples qui sont les plus difficiles à définir. Alors je ne sais pas par lequel commencer, c'est important de définir les termes du sujet au préalable pour éviter les malentendus.
C'est important de le faire, mais je pense qu'il faut, dire aux élèves, parfois certains élèves qui sont très attachés à la méthode vont définir les termes d'une façon peut-être un peu exhaustive et en les juxtaposant les uns à côté des autres sans prendre la peine de les lier. Il me semble que c'est important de rappeler aux élèves que le moment de la problématisation, c'est un mouvement, c'est déjà de la pensée. Et comme c'est de la pensée, c'est du lien. Il faut produire du lien entre les différentes définitions qu'on va proposer. Donc évidemment, il n'est pas question dans l'introduction de définir l'art de façon exhaustive ou de définir la réalité de façon exhaustive. Ce sera en partie l'enjeu de la dissertation.
C'est créer des liens, c'est créer des tensions, c'est créer des rapports.
Créer des rapports entre peut-être les aspects définitionnels des termes qui correspondent le mieux au sujet. Peut-être que le plus simple, c'est de proposer un mouvement problématique, là, maintenant.
Oui, vas-y, Thomas.
Il me semble que, d'abord, il faut poser quelque chose. Il faut poser une thèse à partir de laquelle on va travailler.
Tu m'as dit, tu as un truc et astuce, là, justement, pour problématiser, puisqu'il s'agit de problématiser. Tu parles de c'est la technique de l'étirement.
C'est la technique de l'étirement. Ouais. Bah, quand on s'étire, il faut qu'il y ait une partie du membre qui reste absolument fixe pour pouvoir être précisément étiré. Et donc, il faut poser quelque chose de stable pour ensuite travailler cette chose qui a été posée.
C'est ce que veut dire le mot thèse, hein, du reste. Poser quelque chose.
Poser quelque chose. Mmh. Donc il faut une thèse. Il faut commencer par une thèse. Et ça implique de se mouiller intellectuellement. Ça implique une sorte d'engagement intellectuel dès le début de la dissertation qui va consister à dire « bah oui, on peut penser dans cette direction-là ». Et du reste, souvent, cette première affirmation sera l'objet de la première partie de la dissertation. Quand on fait une bonne problématique, on a en règle générale les deux premières parties de la dissertation qui sont déjà au moins ébauchées dans la problématique.
Alors est-ce que tu peux justement commencer par cette première thèse et cette première compréhension des termes ?
Bah, je pense qu'on peut, il me semble qu'on peut commencer par affirmer, par dire oui, l'art nous détourne de la réalité à partir peut-être d'un élément définitionnel de l'art en posant l'idée que l'art est toujours une représentation et qu'en tant qu'il est représentation, il n'est pas présentation. C'est-à-dire que l'art ne nous donne pas accès à une chose directement, mais il nous donne accès à une chose de façon médiate.
Mmh.
Si bien que il est légitime de penser que l'art ne peut que nous détourner de la réalité, puisque il nous oblige finalement à ne pas vivre sur le mode de la présence. Tout ce qu'il nous donne...
En tout cas, le sépare. Par exemple, on pourrait dire l'art, c'est tout ce qui est encadré. Donc il y a un cadre. Avant le morceau de musique, il y a un silence au début, il y a un silence à la fin.
Mmh. Donc il est séparé, on y reviendra, il est séparé pour toutes sortes de raisons. Il est séparé parce qu'il est au musée ou parce qu'il est à l'église. L'art est effectivement une réalité séparée, une représentation d'une chose qui n'est pas là. Et puis on peut aussi éventuellement s'appuyer dans l'introduction, sans que ce soit trop long, peut-être qu'il faudrait faire un choix, sur l'idée que l'artiste ou le spectateur, le cliché de l'artiste perdu dans son atelier ou du spectateur perdu dans ses pensées au musée, qui serait donc une forme d'absence, d'éloignement de la réalité.
Donc ça nous détourne, on quitte le chemin de la réalité, du quotidien, du monde et... On va ailleurs.
On va ailleurs dans une forme d'isolement, peut-être un peu spirituel, un peu loin du monde présent.
D'accord, donc ça ce serait la première thèse, la première idée, et puis ça recoupe cette idée que l'artiste utilise surtout l'imagination, la fantaisie.
Mm-hmm. Ouais. Qui par définition est une sorte de, au moins une réécriture du réel, sinon une invention complète.
Mm-hmm.
Et en même temps, et ça ce sera le deuxième mouvement, l'étirement si on veut, en même temps, par exemple, l'émotion qu'on éprouve face à une œuvre, finalement, n'est pas moins réelle, n'est pas moins vécue que le vécu qu'on appelle le vécu de la perception sensible immédiate. Quand on écoute une chanson, quand on regarde un beau film, on est effectivement ému. Et cette réalité-là, en quoi serait-elle moins réelle que la réalité qu'on connaît dans le monde du travail, dans le monde de la consommation habituelle.
Donc là, on a déjà soulevé un paradoxe. Au fond, la représentation est plus frappante que la présentation. Philosopher, c'est peut-être d'abord ça, c'est soulever des paradoxes.
Ouais, il y a une phrase de l'écrivain américain Fitzgerald qui dit « On reconnaît les gens intelligents au fait qu'ils peuvent avoir dans l'esprit deux idées contradictoires » et continuer à fonctionner. En ce sens-là, les philosophes, peut-être, on espère, sont des gens intelligents. En tout cas, la philosophie peut nous conduire à vivre le monde d'une façon problématique, peut-être plus complexe. On peut accepter que les choses soient irrésolues, qu'il y ait une forme d'insatisfaction, de non-finitude.
D'aporie.
Dans les choses, peut-être d'aporie. Et que ce n'est pas grave.
Mais ce goût du paradoxe qu'a le philosophe, est-ce que ça ne vient pas flatter aussi cette compréhension, cette accusation que les élèves portent à l'égard de la philosophie? Au fond, elle peut dire tout et n'importe quoi, puisqu'on peut développer une thèse et son contraire. C'est au fond ce que tu suggères avec cette méthodologie de l'étirement. On pose dans un sens et puis on va tirer dans l'autre sens, et ça donne presque l'impression que ce serait possible pour toute question.
Et on peut avoir le sentiment, même en l'écrivant, et d'ailleurs les élèves le font souvent, effectivement d'une forme d'arbitraire ou même de bêtise, à dire « eh ben oui » et puis « non ». De dire une chose puis son contraire. Et évidemment, c'est jamais de ça qu'il est question. L'idée, c'est plutôt de dire le réel est complexe, ou les questions qu'on aborde sont des questions complexes. Quand on parle d'art ou quand on parle de réalité, ce sont des notions qui n'ont pas qu'une seule définition, ce sont des notions très riches. Et donc, en fonction qu'on les définit de telle ou telle manière, la réponse va varier. Et c'est au fond ce qu'on demande de faire dans une dissertation, de dire ben voilà, l'art, ça peut être ça, la réalité, ça peut être ça. Quand on les met sous tel rapport, ça va donner tel type de réponse, mais l'art ou la réalité, c'est pas seulement ça, c'est aussi telle autre chose, et donc il faut envisager les questions aussi d'un autre point de vue.
Donc là, il y a peut-être un peu une mise en abîme avec la question de l'art. C'est qu'en travaillant sur la complexité, sur les points de vue, sur la mise en perspective, sur les apparences, on ne perd pas néanmoins la recherche de la vérité. On l'a pas abandonné, c'est pas qu'un jeu.
Ah non, c'est pas qu'un jeu, mais c'est difficile quand on écrit une dissertation de penser que ce n'est pas un jeu, de le prendre au sérieux. Mais non, ça peut pas être un jeu, puisque, enfin, ça ne peut pas être qu'un jeu. En tout cas, peut-être qu'il faut jouer aussi un peu avec. Mais si on admet que le réel est complexe, avoir une pensée qui cherche à s'en approcher, c'est nécessairement soulever les contradictions, les tensions, et pas simplement dire oui, c'est comme ça.
Alors arrive peut-être le moment de repréciser le problème, la problématique, et puis de partir sur la première partie.
Mm-hmm. Alors, la problématique pourrait prendre la forme suivante. Comment est-ce que cette chose qu'on nomme art et qui implique parfois une forme d'isolement, de séparation, peut-elle être aussi quelque chose comme un intensificateur du réel ou du sentiment de réalité? Comment est-ce que cette même chose peut prendre apparemment deux formes complètement différentes? Et sans doute que ça va nous amener, et c'est un des enjeux du sujet, à définir ou redéfinir ou réévaluer au fur et à mesure de la dissertation la notion de réalité.
C'est important, ce travail réflexif, hein, de revenir à chaque fois sur ce qu'on a dit précédemment pour aller plus loin.
Tout à fait. Et en particulier, sans doute, quand arrive le moment de la troisième partie, mais on y reviendra.
Donc, première thèse.
Première thèse, première partie, qu'on pourrait appeler la justification du sens commun, c'est-à-dire prendre au sérieux l'idée qu'en effet, l'art nous détourne de la réalité. Alors on peut le démontrer, on peut formuler un argument, on peut commencer peut-être par un certain nombre d'exemples, par exemple la question de l'art religieux. L'art religieux, l'art placé dans une église, dans un lieu séparé, sacré, qui signifie séparé d'ailleurs, nous conduit nécessairement vers l'au-delà, vers ce qui n'est pas, et
vers une transcendance.
Vers une transcendance, vers un ailleurs. Donc ça vaut pour l'art religieux, qui a quand même été le principal central, espace de la création artistique dans notre histoire. Et puis plus récemment, le musée est aussi le lieu d'un espace, aussi un espace séparé, et le lieu possiblement d'une fuite hors du réel. Le musée est conçu comme quelque chose, comme un lieu à part. Du reste, ça pourrait... Sans doute, si on devait utiliser une référence dans la première partie, on peut s'appuyer soit sur Kant, soit sur Hannah Arendt, pour montrer que l'œuvre d'art, précisément, se caractérise par son inutilité. Il faut qu'elle sorte du monde de l'usage, il faut qu'elle sorte du monde de l'utilité pour se manifester en tant qu'œuvre, et que c'est précisément ça qui fait exister... une œuvre, c'est qu'on ne peut pas la consommer, c'est qu'on ne peut pas se l'approprier. Et en ce sens-là, même un collectionneur d'œuvres d'art n'utilise pas exactement l'art dans sa forme artistique. Ils l'utilisent plutôt dans un rapport matériel ou de consommation à l'œuvre.
Mais si on donne au mot réalité peut-être un peu facilement le sens de vérité et qu'on travaille sur le verbe détourner en le prenant au sens de divertir et de manière peut-être encore plus chargée et lourde, séduire, c'est ce qui nous séduit. Est-ce que du coup l'art, c'est pas quelque chose qui nous éloigne de la vérité pour aller vers des choses plus gratuites, plus fantaisistes?
C'est ce qu'on pourrait penser, par exemple, en étudiant les formes de création artistique les plus industrielles, éventuellement. Où on pourrait éventuellement proposer l'argument que le but de l'industrie, c'est effectivement de nous donner quelque chose comme un bonbon.
Ça flatte, en ce sens.
Ça flatte.
Et ça flatte les sens.
Et c'est fait pour. C'est fait pour. Le cinéma le plus contemporain qui surcharge les pistes, notamment les pistes sonores, qui propose un environnement sonore puissant et surchargé, est fait pour, ça fait plus que flatter même, ça nous abat, ça nous étouffe, ça étouffe la sensibilité de telle sorte qu'on soit saturé, un peu comme quand on prend une drogue dont on va être absolument saturé.
Oui, mais si on prend une autre notion centrale apparemment dans l'art, la beauté, on peut penser peut-être que l'art vise la beauté, et la beauté fonctionne comme un attracteur, il n'y a rien de plus puissant que la beauté, ça nous fait arrêter toute activité, et puis on lève la tête, on regarde, en ce sens on est détourné de ce qu'on faisait.
On est détourné de la réalité au sens où on définit la réalité ici, c'est-à-dire le monde ou le règne de l'utile. Le beau est de l'ordre de l'inutile, et donc quand on se tourne vers le beau, bah, au fond on cesse de produire, on cesse d'agir en vue de son intérêt immédiat, on cesse de consommer. Et en ce sens-là, on pourrait dire que la première définition de la réalité qu'on donne dans ce travail, dans la première partie, c'est le réel, c'est ce qui nous est utile et c'est ce qui nous procure une satisfaction immédiate. Donc est-ce que l'art, au fond, serait cette chose qui nous fait sortir du monde de l'utilité et qui nous fait sortir du monde de la satisfaction? C'est peut-être la question qu'on pourrait poser comme transition vers la seconde partie.
Et l'art, effectivement, qui semble, tu nous dis, ça nous arrache au domaine de l'utile, ça semble nous arracher au domaine de la consommation, tandis que là, avec peut-être l'industrie, les industries des arts ou les industries des biens culturels, on consomme de l'art, excusez le terme un peu vulgaire, on en bouffe, on devient obèse presque à force de séries, de films, de musique.
Mais est-ce que c'est encore de l'art ?
Ça devient la réalité.
Est-ce que c'est encore de l'art ou est-ce que c'est autre chose que de l'art ? C'est-à-dire, ça pose la question de la définition.
Donc il faut un critère, il faut juger là.
Il faut juger. Est-ce que une œuvre au fond qu'on peut consommer, parce que c'est ce qu'on fait avec les séries, on les consomme, on les enchaîne, est-ce qu'elle perd pas dans une certaine mesure sa qualité artistique, dans le sens où effectivement on la mange, on l'absorbe, et on l'oublie souvent. Qu'est-ce qui restera des séries qui sortent tous les mois dans 10, 20, 30, 40, 50 ans? Qu'est-ce qu'on va garder de ça? On a gardé des œuvres de Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'on va garder des séries actuelles? C'est une question qu'on peut poser.
Alors on est toujours sur la première partie, on va passer à la deuxième partie. Au fond, on a commencé par le lieu commun, ce qu'on appelle en art un cliché. Il faut bien dire aux élèves qu'il n'y a pas de mal à essayer de défendre un cliché.
Absolument, les clichés ont une raison d'être. Donc il faut les interroger, les justifier dans une certaine mesure, et possiblement les critiquer. En tout cas, il faut leur donner leur chance et expliquer leur raison d'être.
Et se dire qu'on n'en restera pas au cliché, il faut espérer.
Bah, idéalement, la deuxième partie doit normalement essayer d'aller un peu plus loin.
Et ben, on va voir si on va passer d'un cliché à l'autre ou d'un cliché à une idée un peu plus vraie. De temps en temps, dans le cours d'une réflexion, il est bon de relever la tête de la feuille, de boire un coup d'eau et de se restaurer un peu. Pour prendre un peu d'élan, on vous propose d'écouter, lors de cette pause musicale, ben je te laisse Thomas, puisque c'est ton choix, donner le titre de...
Eh ben, on va écouter une chanson de Bob Dylan qui s'appelle « When I Paint My Masterpiece ».
On se retrouve juste après, à tout de suite.
the streets of Rome are filled with rubble. Aged footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double on a cold, dark night on the Spanish stairs. Got to hurry on back to my hotel room, where I've got me a date with Botticelli's niece. Yup, she promised that she'd be right there with me. But I paid my master fee. Oh, the hours that I've spent inside the Coliseum, dodging lions and wasting time. Oh, those mighty kings of the jungle, I could hardly stand to see them. Yes, it sure has been a long, hard climb. Train reels running through the back of my memory as the daylight hours do increase. Someday everything is gonna be smooth like a rhapsody when I paint my masterpiece. I left Rome and landed in Brussels, with a picture of a tall oak tree by my side. Clergymen in uniform and young girls pulling muscles. Everyone was there and nobody tried to hide. Newspaper men eating candy had to be held down by big police. Someday everything is gonna be different when I paint my masterpiece.
Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, nous sommes en compagnie de Thomas Chevrier pour une émission Bac Philo. Nous dissertons sur le sujet « L'art nous détourne-t-il de la réalité ?» et nous venons d'écouter une chanson d'un artiste qui plaît beaucoup à Thomas, Bob Dylan. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ce morceau ?
C'est une chanson qui s'appelle « When I Paint My Masterpiece » qui raconte les tribulations d'un homme en Europe, probablement en tournée. Hein, c'est l'histoire sans doute plus ou moins directe de Bob Dylan en tournée en Europe, qui va d'abord à Rome, puis à Bruxelles, et qui rencontre toutes sortes de personnages, de situations, et qui est en lien directement avec notre sujet, puisque la chanson s'appelle « Quand je peindrai enfin mon chef-d'œuvre », et donc c'est l'histoire d'un artiste à la recherche ou en anticipation de son chef-d'œuvre qui ne vient jamais, bien sûr.
Alors nous, on est à la recherche de notre deuxième partie. Avant d'aller vraiment dans notre deuxième partie, c'est bien de faire une transition, de montrer pourquoi, au fond, la thèse que tu viens de défendre a des limites et qu'elle n'est pas suffisante.
Mm-hmm. Ben, dans la première partie, on a défini la réalité plutôt comme un monde utilitaire. Et il me semble qu'une question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que cette réalité utilitaire ne serait pas au fond qu'un plus bas degré de réalité ? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser la réalité d'une façon plus large, plus complexe que simplement ce qu'on peut s'approprier, ce qu'on peut consommer, ce qui peut nous servir, pour poser vraiment la question du rapport de l'art au réel ? Et auquel cas, on va voir, ça va être l'objet de notre démonstration dans la deuxième partie, on va voir que l'art est peut-être ce qui nous permet d'étendre notre réalité, de la développer, de l'élargir et de ne pas s'en tenir justement à ce monde qui serait strictement utilitaire.
D'accord. Donc l'utilitaire serait un peu superficiel et là il s'agirait d'atteindre des couches plus profondes, plus complexes, plus étendues.
Est-ce que c'est plus profond? Est-ce que c'est plus complexe? Comment positionner cette réalité par rapport à l'autre? Ce sera peut-être l'objet de notre troisième partie.
Donc, Nietzsche qui parlait de la profondeur de la surface.
Quelque chose comme ça. Je pensais plutôt qu'on pourrait commencer cette deuxième partie avec le travail de Bergson dans l'évolution créatrice. Bergson décrit l'artiste au fond comme une sorte de raté de la nature. Parce que l'être naturel, évidemment, cherche son utilité, son plaisir, sa joie. Et en ce sens, il réduit le monde uniquement à sa joie, son utilité individuelle et au fond, sa survie. L'artiste, en tant que raté de la nature, nous dit Bergson, il a accès à ce que Bergson appelle l'ensemble des parties extensives. Et au fond, il rentre en rapport avec une infinité de corps, bon, c'est des termes plutôt spinoziste, en tout cas il rentre en rapport avec un réel qui est beaucoup plus large du fait qu'il n'a pas besoin et pas de nécessité de se l'approprier. C'est au fond quelqu'un qui vit le monde sous forme contemplative et qui du même coup est capable de le saisir d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus riche qu'on ne le ferait quand on est simplement voué à consommer le monde.
Effectivement, nous sommes des êtres vivants, et c'est la formule latine qu'il reprend, primum vivere, je crois, primo vivere. D'abord vivre, et vivre ça implique d'avoir une attention qui est concentrée, limitée sur la tâche à faire.
Tout à fait.
L'art, au contraire, permet d'étendre cette attention.
Ouais, je crois que tu as prononcé un mot intéressant, qui est le mot d'attention. La consommation réduit la qualité de notre attention, elle la réduit en extension et puis elle la réduit temporellement, ça va vite. On mange, on consomme, on passe à autre chose. Peut-être que l'artiste, dans la mesure où il est distancié de l'utilité, entre en rapport avec le temps d'une façon beaucoup plus vaste, beaucoup plus lente, beaucoup plus durable. Au reste, on sait bien que la fabrication d'une œuvre, même si elle peut aller vite, implique une forme d'intensité, de continuité, peut-être un rapport au temps un peu différent que ce qu'on peut éprouver dans la réalité habituelle. Et ce que fait l'artiste en produisant l'œuvre, on peut penser qu'il le donne à voir au spectateur et il le donne à éprouver au spectateur. Au fond, les percepts, les affects que l'artiste met dans son œuvre, le spectateur les éprouve peut-être d'une façon moindre, mais il les éprouve. Et en ce sens-là...
Il les avait entrevus, entreaperçus.
Il les avait entrevus, c'est ce que dit Bergson. L'artiste est un révélateur. Comme le photographe autrefois, quand il tirait ses clichés, les élargissait, les agrandissait et donnait à voir peut-être des choses que tout le monde connaissait ou pressentait. Du reste, c'est une expérience que je crois n'importe qui a déjà fait. N'importe quelle personne qui a lu un livre, qui a vu un beau film, a déjà fait l'expérience de se dire « mais oui, je le savais ». Cette chose-là que l'artiste était en train de me dire, je le savais.
C'est exactement ça.
C'est exactement ça, mais j'avais jamais réussi à mettre le doigt dessus, j'avais jamais réussi à mettre les mots dessus. Quand on lit, vous lisez Proust sur l'amour, vous voyez bien que tout ce qu'il dit est vrai, mais il le dit d'une façon telle que tout d'un coup, ça vous frappe au coin de l'évidence. C'est vrai.
C'est aussi un plaisir qu'on peut avoir en faisant de la philosophie. C'est, au fond, peut-être le plus intime, quelque chose qu'on a ressenti de manière la plus intime, qui apparaît comme une vérité universelle, sous la plume d'un philosophe.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'art. Au fond, prendre de l'intime, prendre du subjectif, et lui donner quelque chose comme une forme universelle. En ce sens-là, il y a des parentés entre le travail artistique et le travail philosophique. Qu'est-ce qu'on fait des affects? Qu'est-ce qu'on fait de nos perceptions, de nos affections? Et comment est-ce qu'on leur donne une forme qui est communicable, compréhensible par d'autres.
La Bergson aussi, en bon philosophe, ne se contente pas simplement de développer une thèse qui contredit le sens commun, le préjugé. Il explique pourquoi habituellement on se trompe.
effectivement, quoi, qui nous explique qu'on se fixe uniquement sur le règne de l'utilité.
Qu'on confond le réel et l'utile.
Qu'on confond le réel et l'utile, qu'on confond le véritable langage avec le cliché, et qu'on passe notre temps à vivre sur le mode de l'habitude, qui est au fond un mode réduit du vivant. Mais qui ne critique pas absolument, puisqu'il montre à quel point c'est un mode nécessaire, et normal, et naturel.
Un peu de méthode. Comment utiliser une référence? Est-ce qu'il faut commencer directement sa partie par, selon Bergson, Bergson dans l'évolution créatrice dit ceci, cela?
Je ne pense pas qu'il y ait de règles absolues, mais à mon avis, il est plus pertinent de mener l'argument soi-même, d'avancer l'idée, de commencer à la construire et de montrer comment notre idée, au fond, entre en résonance avec l'idée du philosophe. Et surtout, ne pas se contenter de citer et puis de s'arrêter net. Une fois qu'on a cité, il faut expliquer ce qu'on a cité et surtout prendre soin de revenir au sujet. En quoi est-ce que l'argument qu'on a exposé et la citation qu'on a travaillée nous permet d'avancer dans la réflexion et donc dans la réponse qu'on est en train de proposer.
J'ai casé ma citation, plusieurs citations, plusieurs références, je suis sûr d'avoir 20.
Ouais, c'est ça.
Alors là, tu t'es appuyé sur Bergson, sur cette idée donc paradoxale, qu'en réalité l'art est révélateur. Mm-hmm. Est-ce qu'on reste sur cette idée-là ou on peut en trouver une autre qui abonde un peu dans cette même direction pour cette deuxième partie?
On pourrait approfondir un peu en se demandant, au fond, qu'est-ce qui nous est révélé et sous quelle forme, quand l'art est révélateur et si l'art est révélateur. Il est révélateur comment est-ce qu'il s'y prend? Et je crois qu'on peut s'appuyer peut-être ici sur une deuxième référence, qui serait une référence à Kant, à la critique de la faculté de juger. À certains endroits, Kant nous dit qu'au fond, ce à quoi on a accès dans l'art, c'est une vérité ou une forme quasi logique. Qu'il y a de la logique dans la forme artistique, mais c'est une logique très singulière, puisqu'au lieu d'être une logique purement abstraite, c'est une logique à laquelle on a d'abord accès sous la forme sensible. Et donc au fond, c'est la façon dont l'artiste s'y prend pour nous communiquer ses percepts et ses affects. Il faut qu'il leur donne une forme. Une forme très singulière, nous dit Kant, puisque c'est pas une forme qui est connue d'avance, c'est une forme que l'artiste va créer, va fabriquer au fur et à mesure de sa création, et donc il y a une part forcément d'improvisation, d'accident, d'improvisation, peut-être de hasard dans le geste artistique, mais c'est jamais un hasard absolu, sinon ça ne serait qu'une fantaisie, nous dit Kant. L'artiste va malgré tout créer des règles dans l'œuvre, et on sait très bien, on les connaît ces règles. Si vous voyez un Van Gogh, vous savez que c'est un Van Gogh et vous le savez parce que vous pouvez au fond dire, ah ben oui, il y a telle manière, il y a tel style, il y a tel élément, il y a les coups de pinceau épais, il y a la vitesse de la touche, il y a les couleurs extrêmement riches et saturées. Donc on peut reconnaître un Van Gogh parce qu'il y a des règles, il y a un style, mais Van Gogh, au moment où lui-même fabrique ce style, ne le sait pas. C'est ce que nous dit Kant, en tout cas. Il ne sait pas comment il fait, il le fait.
C'est Deleuze aussi qui au fond, donnait la fonction de l'art de la manière suivante. Ça consiste à capter des forces à l'aide d'une forme, en triturant la forme, essayer de capter la force. Là, ça peut être l'occasion de revenir peut-être à ce que tu disais précédemment au sujet de la religion. Tu disais que ça nous permet ça nous transcende vers une autre réalité. Il y avait déjà peut-être cette idée un peu dans cette première partie, non, de la forme qui va être le tremplin vers autre chose, qui capte autre chose d'un autre monde.
Absolument, mais ça nous mène déjà presque à la troisième partie, c'est-à-dire...
Eh bien, allons-y.
C'est-à-dire, quel va être le rapport, au fond, entre ce monde devant lequel on est face à l'œuvre, et puis le monde dit plus réel ou plus prosaïque de l'utilité. Qu'est-ce que c'est que ces forces dont tu viens de parler, ces forces de l'art? Est-ce que c'est d'autres forces? Est-ce que Van Gogh, face à la nature, voit autre chose que nous? Est-ce qu'il voit davantage que nous? Puisqu'on a parlé tout à l'heure d'une forme quasi logique ou géométrique, est-ce que c'est une forme qui serait purement intellectuelle? Et donc, on peut en fait pour débuter cette troisième partie, peut-être reprendre ce qu'on a dit et poser une nouvelle question. On a dit, au fond, l'art, c'est une réalité qui dure, qui est inutile, qui possède une forme harmonieuse et qui peut-être nous donne accès à davantage de réalité. Mais cette réalité nouvelle, est-ce que c'est une réalité alternative, une réalité supérieure? Qu'est-ce qu'on en fait au fond de cette réalité? Et on sait qu'on peut avoir peut-être la prétention artistique de mal juger le réel en disant « Ah mais oui, mais ça c'est le réel prosaïque, c'est le réel de l'utile, c'est le réel de la nature, qui serait au fond une réalité inférieure. » Donc est-ce que les forces qui sont à l'œuvre dans l'œuvre et qui sont captées par l'artiste sont d'autres forces que les forces du quotidien? C'est pas, la réponse n'est pas entièrement évidente. Sans doute que ce sont... la réponse de Bergson, ce serait de dire que ce sont les mêmes forces. Simplement, il y en a plus, il y en a davantage, on voit plus loin, on voit plus complexe, on fait des liens plus précis.
Il y a le philosophe de la technique, Gilbert Simondon, qui distingue l'outil et l'instrument. Et on parle d'un instrument de musique et il dit la différence, c'est qu'un outil, c'est un effecteur, ça produit un effet, tandis que l'instrument, c'est un capteur. Et donc, par exemple, avec un violon, on va capter des sons et des fréquences, des tonalités, et puis tout ce que ça évoque affectivement. Il n'y a que le violon pour nous faire accéder à cette réalité sonore, spirituelle, qui nous touche, nous fait pleurer et nous émeut. En ce sens, ça capte des choses qui étaient là.
Ça capte des choses qui étaient là, qui finalement ne demandaient...
Invisibles.
Qui ne demandaient qu'à se manifester. Et auquel cas, si on admet que l'art, finalement, c'est quelque chose comme un capteur d'invisible, il ne nous éloigne pas de la réalité, il ne nous détourne pas de la réalité, il ne fait qu'épaissir, que densifier la réalité dans laquelle on vit. Et parfois, on dit que les pommes qu'on voit dans le panier sur la table sont aussi les pommes de Cézanne, ou sont encore les pommes de Cézanne après avoir vu un tableau de Cézanne. On ne perçoit plus le réel tout à fait de la même manière. Donc l'art, ce n'est pas autre chose.
Je crois que Cézanne peignait des pommes un peu comme des femmes. Hein, mais bon. Il y a Oscar Wilde dans Le déclin du mensonge qui dit justement que ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais c'est la nature qui imite l'art. Ça rejoint cette idée, non?
Ça rejoint cette idée qu'au fond, on a à apprendre à voir la nature. Peut-être que ce qu'on appelle la nature ou ce qu'on appelle le réel, c'est en réalité du cliché. Et qu'on a besoin des artistes pour nous apprendre à vivre, pour nous apprendre à voir sur un mode un peu moins dérisoire, un peu plus intense.
Oui, donc on voit que l'art, c'est pas simplement un colifichet, c'est pas simplement quelque chose qui nous divertit, qui apporte un petit peu de beauté comme ça, c'est une affaire sérieuse. Donc on se coltine, pas on se coltine, mais c'est une confrontation au réel, une découverte du réel.
C'est une découverte du réel et une découverte un peu exigeante. C'est peut-être pour ça que ça vaut la peine de s'arrêter devant une œuvre, de prendre le temps de faire un travail. C'est une question qu'on n'a pas posée aujourd'hui, mais qui pourrait tomber. Est-ce qu'il faut apprendre à voir les œuvres? Est-ce qu'au fond, par notre seule intuition, on est capable d'accéder à l'art? Et peut-être que il faut travailler, il faut se rendre capable d'être à la hauteur des œuvres. La première fois que vous lisez Proust ou la première fois que vous voyez un Cézanne, ça peut être déroutant, voire pénible, dur. Combien sont les œuvres qu'on laisse tomber un peu au début parce qu'on peine, parce que c'est pas évident. Et il faut passer 20, 30, 40, 50 pages pour enfin être dans un territoire qui n'était pas le nôtre et qui devient petit à petit le nôtre. Et donc entrer en rapport avec des forces qui n'étaient pas les nôtres et qui petit à petit deviennent les nôtres.
Alors notre plan a été bien déjà esquissé, on ne se propose pas dans cette émission de faire la dissertation par le menu, vient le temps de la conclusion. Que faut-il dire en conclusion d'une dissertation?
Alors la conclusion, c'est un moment assez simple au fond, où on reprend ce qu'on a dit en s'assurant de proposer non pas une réponse toute faite et rapide, mais des éléments de réponse quand même assez précis. Ici, on pourrait dire, l'art semble nous détourner de la réalité dite utilitaire, mais est-ce que la réalité utilitaire, c'est toute la réalité? On a vu que sans doute pas. Et ainsi, l'art, loin de nous détourner de la réalité, serait cette capacité, cette action qui rend possible un rapport avec une réalité plus riche, plus épaisse, plus dense, plus intense. Et donc c'est loin d'être un détour, c'est plutôt une sorte d'approfondissement vers le réel. L'idée, ce serait de dire qu'on n'est jamais aussi proche de la réalité que devant une œuvre, à mon avis.
Beau paradoxe pour terminer, mais un paradoxe, il faut le préciser, hein, c'est pas une contradiction, donc un paradoxe, c'est pas une erreur.
C'est pas nécessairement une erreur, c'est maintenir l'opposition. Et je crois aussi qu'il faut préciser aussi aux élèves qu'une fois qu'on a fait ça, les élèves se disent toujours « Ah mais il faut ouvrir, il faut une ouverture. »
C'est le moment de la fermeture, faut-il une ouverture ?
Voilà, c'est pas nécessaire. Si une question se pose sous forme évidente, une question un peu adjacente au sujet, mais qui résulte vraiment du mouvement et de la conclusion, on peut proposer une ouverture sur éventuellement une autre thématique, par exemple ici sur le religieux. Ça pourrait être valable, dire au fond, est-ce que l'expérience artistique ne serait pas en ce sens-là proche de l'expérience religieuse ? Mais il n'y a pas du tout d'obligation d'ouvrir, et il vaut mieux, à mon avis, apprendre à la fermer.
Oui, ça peut être maladroit, en posant une question, d'indiquer qu'il y avait un problème directement en prise avec le sujet, qu'on l'a vu et qu'on ne l'a pas traité.
Exactement, c'est
donc
trop tard.
Éviter de donner le bâton pour se faire taper. Merci beaucoup Thomas de nous avoir ramené à la réalité en nous entretenant de l'art.
Merci à toi.
C'était la première émission d'une série qui en compte 3. Je vous dis donc à demain pour philosopher sur l'État, la violence, la sécurité et la liberté avec Anne Simon. Parler de la musique, c'est bien, mais l'écouter, c'est mieux. Alors place à la musique sur Bac FM. Salut.
Au revoir.